Voilà, bonjour. Donc ma question est très courte. Je voulais savoir si en Alsace-Moselle, donc, comment allait se positionner cet enseignement par rapport donc aux enseignements qui existent déjà.
Oui, c'est une bonne question. Est-ce qu'il abroge ce qui existe déjà? Là, spontanément, je vous avoue que je n'ai pas la réponse. En tout cas, ce qui est sûr, je ne suis pas sûre que le régime des options ait été aboli. Par contre, ce qui est sûr, c'est que l'enseignement moral et civique doit avoir lieu, puisqu'il est indexé, en fait. Le CJS avait déjà lieu en lycée, hein, il existait, puisque les programmes sont nationaux. Hein, donc, l'EMC a bien lieu. Par contre, je ne suis pas sûre que la possibilité d'avoir un cours de religion ou un cours de morale soit abrogée. Il me semble qu'elle est maintenue. De toute façon, vous savez que dans ce cas du régime d'option, les élèves avaient la possibilité d'être dispensés. Et apparemment, le cas de dispense, c'est le cas majoritaire. Si je me souviens bien, c'est 99% ou quelque chose comme ça des élèves qui sont dispensés. Donc cet enseignement optionnel, il est ultra minoritaire. Maintenant, si votre question consiste à me demander comment est-ce qu'il se positionne sur le plan de la méthode par rapport à l'enseignement qui avait lieu, je vous répondrai... Alors, je suis pas une spécialiste des pratiques en enseignement moral non confessionnel en Alsace, mais il me semble qu'il se déploie tout à fait dans la même... logique que ce qui se faisait en Belgique. C'est-à-dire on est quand même assez proche d'un travail sur le développement personnel et le lien avec l'éducation à la citoyenneté va se faire beaucoup moins à travers les disciplines, ce qui se fait chez nous. Où en fait l'enseignement moral et civique, il est très très marqué par un ancrage pluridisciplinaire. Parce qu'il y a vraiment cette idée que le programme, il n'y a pas des spécialistes de l'enseignement moral et civique, mais que tout le monde y contribue. Alors il y a, je vois effectivement, il y a un lien. Alors dans les faits, il se trouve que en collège le plus souvent, vu que l'horaire dédié s'articule à l'enseignement de l'histoire et géographie, ce sont les historiens géographes qui assurent cet horaire dédié. Même s'il y a certains établissements où voilà, j'ai entendu dire que la demi-heure hein, d'enseignement moral et civique avait été retirée aux collègues d'histoire. En lycée, l'EMC prend le relais de le CJS et là il y a trois, je dirais, catégories de professeurs qui assurent cet enseignement, sont les profs d'histoire-géographie, effectivement, les profs de philosophie, les profs de sciences économiques et sociales, qui aussi, dans des logiques de complément de service, se voient attribuer ces enseignements ou de tradition hein, dans les établissements. Donc, il y a une plus grande ouverture disciplinaire dans le cadre de l'EMC en lycée, mais il y a quand même, si vous voulez, il y a quand même bien toujours cette approche à travers les savoirs disciplinaires, là où, dans le cadre d'un enseignement moral non confessionnel qui se situe dans un régime d'option en contrepoint d'un enseignement disciplinaire, on va être plus sur une approche développement personnel laïque. Alors, ça ne veut pas dire que les collègues qui assurent cet enseignement vont pas aller piocher dans les ressources disciplinaires, mais ils se situent beaucoup moins par rapport au traitement d'un programme et par rapport à des objectifs pour lesquels ils ont été formés. Donc voilà, je réponds à votre question sans y répondre, c'est-à-dire je vous réponds sur les principes. Après, sur la réalité des pratiques, je vous avoue que je suis assez, j'ai assez peu d'éléments sur concrètement comment ça se passe dans les cours.
Oui, donc je suis lorrain, puisque je viens de l'université de Lorraine.
Vous allez nous répondre alors.
Et donc j'enseigne à l'ESPE et à l'université. Et donc en ce qui concerne l'Alsace-Moselle, le régime n'est absolument pas changé. C'est toujours le régime d'option. Alors vous avez dit que les demandes de dispense des heures consacrées spécifiquement à l'enseignement religieux sont dans l'enseignement public majoritaire. C'est vrai, mais c'est très hétérogène. Si on prend par exemple la ville de Metz ou la ville de Strasbourg, effectivement, on est bien à des taux résiduels de participation. La plupart des familles demandent une dispense. Mais si vous allez dans des secteurs ruraux ou dans certaines zones de Moselle-Est, la pratique, le choix des options reste quand même très prégnant. Alors ceci dit, c'est toujours le même régime qui s'applique, hein, c'est-à-dire que ce sont les représentants des cultes qui délèguent des personnels qui assurent donc sept heures d'enseignement religieux. Alors je n'ai jamais assisté bien sûr, mais j'ai eu l'occasion de demander à des étudiants d'aller voir enfin dans le cadre de travaux de mémoire ou autres ce qui s'y passait. Et ce qui s'y passe est très hétérogène suivant la personne qui intervient. Donc dans certains cas, on m'a raconté que c'était du catéchisme brut de décoffrage, si vous me passez cette expression. Dans d'autres cas, c'est plus ouvert. D'autre part, je voudrais simplement pas être trop long et terminer en disant que ça n'exclut pas naturellement que le programme d'éducation civique ou le programme d'EMC s'applique entièrement à l'école publique. C'est-à-dire que, effectivement, ça ne dispense absolument pas les enseignants de l'enseignement public de pratiquer, enfin de mettre en œuvre les programmes. Je voulais profiter que j'ai le micro pour vous poser deux questions. La première question, vous avez dit le sacré n'est pas une catégorie pédagogique féconde. Alors je vous avoue que je n'ai pas trop compris ce que vous vouliez dire. Et deuxièmement, sur la question des débats, je voudrais savoir si le fait de vouloir débattre avec des élèves fût-il en terminale n'est pas risqué au regard d'un certain nombre de considérations, notamment concernant le fait que la vision du religieux est explosive, hein, et d'ailleurs Régis Debray disait en 2002 que l'enseignement des faits religieux avait pour but de mouiller la poudre, et donc est-ce qu'on risque pas d'allumer des étincelles à vouloir de manière systématique ouvrir des débats, qu'est-ce que je vais faire en tant qu'enseignant, enfin je ne serai pas confronté directement à la question, si certains de mes élèves, et on m'a raconté que parfois ça peut être majoritaire, prennent des positions qui sont des positions homophobes, etc., en les invoquant d'une façon, en les reliant à des choix religieux. D'une façon générale, j'ai toujours été extrêmement dubitatif sur la possibilité que nous avons en tant qu'enseignants, dans un système qui donne très peu par ailleurs la parole aux élèves, hein, à les faire dialoguer sur des sujets qui sont des sujets explosifs comme ça. Et j'ai toujours été, pour ma part, quand j'enseignais il y a longtemps dans l'enseignement secondaire, réticent à organiser des débats sur le racisme, etc. Pour moi, le racisme ne se débat pas. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des opinions racistes, etc. Mais je n'accepte pas de débattre avec un nazi, ou avec un raciste. Voilà.
Oui, j'entends. Votre objection est une objection pédagogique tout à fait consistante, hein. Et je vais vous répondre en fait en répondant à vos deux questions en même temps, parce que tout dépend de ce qu'on entend par débat. Et je ne suis pas là pour faire l'apologie du débat tous azimuts, hein. Moi-même, j'interviens à l'ESP dans la formation des stagiaires de philosophie, mais aussi des stagiaires des différentes disciplines, justement, sur l'accompagnement à la mise en œuvre de l'EMC. Il est clair que si par débat, on entend la pure et simple confrontation des opinions, on va rien apprendre par là. Hein. Et l'enjeu, quand on parle d'introduire le débat, c'est bien de savoir dans quelle mesure on peut apprendre quelque chose par le débat. Dans quelle mesure est-ce que le débat peut être le relais des savoirs? Et de ce point de vue-là, en tant que prof de philo, on est constamment confronté, hein, au risque que, en voulant donner la parole aux élèves, notre cours dérive vers quelque chose qui n'a plus rien à voir avec les savoirs et qui tourne au déballage d'opinions stériles. Donc, quand je parle de débat, je l'entends en un sens très philosophique, au sens de la discussion philosophique, au sens de ce qui demande à être argumenté, au sens de ce qui est extrêmement maîtrisé. Et quand je vous disais discuter, émettre une objection, c'est pas formuler une invective. Il me semble que si on conçoit le débat comme le fait d'échanger des invectives ou des préjugés bruts de décoffrage, on n'est pas dans l'argumentation, on n'est pas dans la discussion. Et je suis pas non plus en train de dire que le point de vue homophobe se débatte, c'est-à-dire qu'on puisse l'accepter. Simplement, je pense qu'une des manières de le combattre, c'est aussi de dire quel est ton argument, est-ce que tu en as ? Est-ce que tu as des arguments? Discutons-en. Alors, en même temps, je vous cache pas que, et quand vous avez souligné le caractère potentiellement explosif d'ouvrir à la discussion certains sujets, c'est absolument réel. Et c'est pour ça que c'est très difficile. Et il y a des stagiaires de philosophie qui m'ont confessé que je ne me pose pas en tant que directrice de conscience de mes stagiaires, hein, mais donc ils avaient l'impression de reconnaître une faute, hein, ce qui est d'une certaine façon en est une, qui m'ont dit que ils avaient renoncé à traiter un des aspects du programme de terminale, à savoir de traiter la religion, qui est inscrite au programme de terminale. Donc parce qu'effectivement, ils redoutaient le potentiel explosif. Mais alors ça, du point de vue d'un professeur de philo, c'est très précisément renoncer à affronter la conflictualité des questions. Donc par débat, il y a beaucoup de choses qui permettent d'apprivoiser le débat. Il ne s'agit pas d'en faire tous azimuts. Hein. C'est un apprentissage de la discussion. Ça peut se faire, voilà, travailler sur un texte, analyser ses arguments, ça participe du débat. Donc j'entends pas simplement par débat le fait qu'on soit assis tous ensemble et qu'on formule nos objections. Ça, c'est une approche très faible du débat, mais c'est très difficile d'apprendre le débat. On voit bien que les adultes eux-mêmes ont beaucoup de mal à se situer sur le terrain de l'argument. Hein. Donc, il y a des règles du débat. Ça peut être un des enjeux de l'apprendre dans le cadre de la scolarité. Mais je vous l'accorde, c'est extrêmement difficile. Il ne faut peut-être pas commencer par l'apprivoiser avec les questions religieuses.
Et en fait, vous avez dit que l'EMC aussi anticipait l'enseignement de la philosophie. Et en fait, je me pose juste la question de l'absence de professeurs de philosophie et d'enseignement vraiment de la philosophie au collège. L'EMC, donc c'est généralement les professeurs d'histoire-géographie. Je suis pas sûr qu'on ait tous les compétences pour faire une initiation à la philosophie.
Oui, bah là c'est un vieux serpent de mer, la question de l'anticipation de l'enseignement de la philosophie. Je pense que institutionnellement, on aura beaucoup de mal, vu la charge des curricula, à rajouter de la philosophie directement en tant que telle avant. Maintenant, ce qui est envisageable, c'est peut-être de réactiver la dimension philosophique des différents enseignements. Il me semble que dans l'enseignement des lettres, il y a malgré tout un travail sur les grands textes, et que les grands textes, il y a un lien avec la philosophie. Donc moi, c'est aussi comme ça que je comprends l'interdisciplinarité. C'est-à-dire, c'est comme une acculturation mutuelle, de la même manière que en philosophe, on a besoin des historiens. On a besoin des historiens pour pas essentialiser les idées, pour les réinscrire dans une histoire. Donc à mon avis, il y a tout un travail, mais c'est un chantier. Hein. C'est un chantier pour nous armer mutuellement. Pour voilà, l'EMC, c'est un de ces enjeux-là. C'est d'arriver à utiliser des outils qui permettent de construire de manière consistante cette interdisciplinarité. Mais en même temps, en histoire, vous avez un programme tout à fait massif. Donc, la place que vous allez pouvoir donner au débat, elle est difficile à trouver. Hein. Mais moi, je suis pour la formation continue. Hein.
On voit bien l'ambition. On voit bien l'ambition de l'EMC. Je rappellerai que l'EMC s'est mis en place cette année sans aucune formation, sur des enseignants qui ont découvert sur MBO le contenu. Est-ce que là, on n'a pas mis cette ambition-là en danger?
L'ambition est colossale et il y a un besoin de formation, je suis d'accord avec vous. Ça explique aussi les résistances des collègues sur le terrain, hein, des résistances qui sont très violentes parce que c'est difficile. À mon avis, moi c'est ce que je dis à mes stagiaires. Hein. Je leur dis, voilà, aux historiens qui viennent en me disant mais comment on va faire ça, ouh là là, faut faire des dilemmes moraux avec nos élèves. Les profs des écoles, ils sont un peu moins déroutés parce qu'ils ont apprivoisé certains outils depuis plus longtemps. Hein, la discussion à visée philosophique, ils commencent à être un peu, à connaître un petit peu ça. Mais moi, ce que je leur dis, c'est c'est un chantier, donc vous y allez progressivement. Essayez de prendre au sérieux ces programmes et essayez de, vous essayez de vous projeter vers cet enseignement-là sans vous donner des objectifs colossaux. Je pense que la seule manière de lui donner vie, c'est de produire des ressources de qualité, c'est de donner des exemples de démarches véritablement intéressantes et productives. Le travail des collègues, faire remonter ça, je pense que les SP ont aussi un rôle à porter à ce niveau-là, et de les partager, et de les communiquer de manière à donner une légitimité à ce travail, que les collègues voient qu'ils peuvent s'y retrouver, qu'ils peuvent faire du bon travail dans cette perspective-là.
Oui, mais bonjour. Alors, je voudrais savoir, par rapport à ces débats argumentés, dont vous avez dit qu'on commençait à avoir un petit peu plus l'habitude dans le premier degré, par rapport aux anciens programmes où on avait des adages, des proverbes qui pouvaient servir d'appui, je voudrais savoir quelle trace écrite, même si c'est pas le but, les enseignants peuvent laisser. C'est-à-dire qu'on a bien compris le principe d'échange, de respect de l'autre, hein, comme vous l'avez dit, la première partie sur l'estime de soi, la troisième partie sur le respect des autres. Il y a aussi une quatrième partie qui est sur le fait de monter des projets. Et justement, nous sommes formateurs et on se retrouve un petit peu gênés par rapport à cette trace écrite, ces choses à mettre en place qui peuvent aider les enseignants.
Alors, je vous répondrai à partir du débat justement, puisque une des manières de, enfin, quand on parle de débat, il y a la question de l'évaluation du débat aussi. Et quelle trace effectivement ? Comment est-ce qu'on fait que le débat, qu'il en reste quelque chose, que les élèves ne pensent pas que là, on est parti pour s'amuser, qu'on va pas travailler. Donc, il me semble que l'idée de la trace écrite, c'est aussi une des manières d'apprivoiser le débat, puisque l'idée, c'est aussi de, voilà, parmi les outils qu'on peut utiliser, de désigner des rapporteurs de séance, de charger certains de relever les arguments. D'en éprouver la consistance, et ça c'est quelque chose que le professeur peut aider à discuter. Quand on fait une dissertation en terminale, le professeur propose un corrigé, mais il indique souvent que c'est pas la réponse ultime, et il me semble que la trace écrite qu'on peut garder, c'est le résultat de la discussion. Alors faut pas faire non plus comme si le professeur n'aidait pas aussi à faire que cette discussion elle débouche sur quelque chose de consistant, mais il me semble qu'on peut relever cette trace des moments de l'argumentation. On peut aussi relever comme trace écrite des difficultés ou des impasses ou des apories de certains questionnements. Je pense qu'il faut en prendre cette trace écrite, c'est une trace très dialectique. C'est en soi quelque. C'est pour ça que je vous dis, ça revient, ça se rapproche de l'enseignement de la philosophie en classe de terminale. C'est clair que c'est difficile à faire dans le premier degré, qu'il faut sans doute proportionner le niveau de la difficulté à ce que les élèves peuvent formuler. Mais il me semble que c'est une trace écrite de cet ordre-là qu'on peut avoir.
Une toute dernière, très petite question.
Oui, merci, c'est sur l'articulation avec le socle, parce qu'en 2016, oui, il y a un nouveau socle de connaissances, de compétences et de culture, et l'essentiel de ce que vous avez exprimé se trouve à la fois dans l'introduction et aussi dans le domaine 3, oui, de la formation de la personne et du citoyen.
Tout à fait, mais c'est cette idée de, voilà, qu'est-ce qu'il y a dans le socle ? C'est une vision de la culture qu'on entend, donner aux élèves à l'issue de la scolarité obligatoire. Sauf que, vous remarquez d'ailleurs que le socle, il est aussi ambitieux que le programme de l'EMC. Enfin, c'est, il y a cette espèce d'ambition, ça participe effectivement d'une formation de type culturel dans ces différentes dimensions. Mais je vous rejoins tout à fait avec la question de socle. Je pense que la rédaction des programmes de l'EMC qui peut dérouter parfois nos collègues historiens qui étaient habitués à un programme aussi plus thématique, elle est liée aussi à cette entrée par les compétences. C'est clair.